Et alors, un être qui vous apparaît et qui vient comme ça, il est conscient de le faire, mais c'est une partie de lui qui se dégage.
Un être que vous appelez maître est devenu immortel, donc libéré de l'obligation de la mort. Un des aspects de la mort, c'est l'inconscience.
Ma question, c'est est-ce qu'il est conscient dans ce plan ou est-ce qu'il est conscient dans d'autres plans?
Qu'est-ce que nous apprenons à faire? Nous apprenons depuis notre aventure de racine de vie dans cette évolution de la quatrième hiérarchie, nous apprenons à appréhender la conscience de tous ces plans. Simplement, pour appréhender cette conscience, il faut d'abord descendre dans la matière l'involution, et puis après remonter consciemment de plan en plan. Mais quand un être est libéré, bien il se projette à volonté. Il est maître de la matière, donc il se projette comme il veut. Quand vous avez des êtres qui répondent à un dessein de la vie pour elles-mêmes, et eux, pour accomplir ce dessein, vont se priver de toutes leurs facultés pour partir du plus bas de la matière et assumer le dessein de la vie pour elles-mêmes. Parce que si vous comprenez l'évolution des vies, à un moment donné, vous dites « mais la vie a ses limites ». Or, le dessein de la vie, c'est qu'elle n'en est pas. Donc vous avez un dessein pour la forme, vous avez un dessein pour la conscience, vous avez un dessein pour l'aspect évolution des vies, mais vous avez un dessein pour la vie pour elle-même. Est-ce que vous voyez bien les différents aspects? Le dessein de la forme, c'est le fait que l'occupant, l'esprit, tient à adapter la matière à sa volonté. Donc que la forme soit bien l'expression de l'habitant. Vous voyez ça? Donc il y a une évolution de la forme. Conscience, c'est pareil. C'est de franchir les limites des plans de conscience. Ensuite, vous avez le dessein des vies qui est le dessein du Père, l'aspect Père. Puis au-delà, vous avez le dessein de la vie pour elle-même. Donc là, vous atteignez les desseins de grande vie au-delà du plan physique cosmique. C'est pour vous montrer les perspectives. Mais la vie aujourd'hui, dans son évolution, la vie pour son propre compte, c'est encore limité. Ce qui veut dire que les vies ne peuvent pas circuler librement dans les sept univers.
Et une partie du travail, est-ce que c'est aussi, d'après ce que j'entends à vous, on a toujours le choix, par exemple, peut aider son corps au niveau cellulaire à suivre cette évolution, ou alors on peut complètement s'en moquer et se servir d'autres ondes.
Ce que vous évoquez là, en fait, c'est la technique des yogas. C'est-à-dire que les yogas, c'est le principe de l'union. Et à chaque niveau de conscience, vous avez un yoga. Hatha yoga, Laya yoga, Bhakti yoga, Agni yoga, Raja yoga, Agni yoga et yoga de synthèse. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous pratiquez un yoga supérieur, les yogas en dessous fonctionnent automatiquement. Donc, par rapport à vos vies mineures, je dirais que faut avoir la démarche d'élévation spirituelle. Et vos vies mineures par automatisme sont là. Puisqu'en fait, quand vous êtes en démarche spirituelle, vous élevez vos vies mineures au ciel. Bon, on poursuit. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça est un vademecum, c'est-à-dire le plan de travail, ce qui est devant vous. Donc, l'injonction est faites comme si vous assumez. Et laissez tomber du genre « je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas qualifié ». Voilà. N'oubliez pas, le Christ, Maitreya, vous dit il y a 2000 ans, « beaucoup seront appelés, peu s'éliront ». Moyennant quoi, ça a été déformé du genre « vous savez, vous ne pas vous inquiéter, il y a les élus, hein, c'est des privilégiés, et puis vous, comme on dit, bon, soyez sages, obéissez ». Eh bien non, les lois de la vie sont très simples. Il n'y a aucun passe-droit, il n'y a aucun privilège, donc chacun s'assume et a à s'élire. Alors faites comme si. Et puis dans un deuxième temps, osez. Vous ne vous rendez pas compte le nombre d'êtres, nos frères, qui sont au désert et qui attendent qu'on leur apporte l'eau de vie. Alors parallèlement à ce que je vous évoque, il est bien évident que vous avez un épanouissement des structures de manifestation. Je vous renvoie à ce titre au plan qui est à la page 4. Alors vous voyez l'âme qui est au milieu, qui est ce lotus, cette rose, et vous voyez que tous les pétales sont épanouis. Alors ce sont les pétales, c'est des circulations d'énergie. Bon, au début, quand le fil de vie est descendu dans la matière, il est enveloppé par ce qu'on appelle le corps causal, et ça devient un œuf gélatineux. Cette rencontre crée le fil de conscience. À partir de là, de cette unité de conscience, l'être permanent, l'âme, le fil de vie va descendre dans les atomes permanents, c'est-à-dire les points d'énergie liés à chaque plan inférieur. Donc vous aurez l'unité mentale, vous aurez l'atome permanent astral et l'atome permanent physique, éthérique. Donc ça, c'est le fil de vie. Et parallèlement à ça, vous avez le fil de conscience qui s'ancre. Alors les atomes permanents s'ancrent dans le centre du cœur et les atomes de conscience dans la tête. Donc à chaque retrait ou à chaque descente, vous avez l'atome qui est projeté dans le fœtus avec tout le bagage et la mémoire de l'intéressé, et quand il remonte, il ramène son atome permanent avec toute la mémoire de cette vie. Au fur et à mesure qu'il va traverser le réanimat, son processus d'épuration va faire qu'il fait remonter l'essence des vies mineures jusqu'au corps causal. Et alors, vous avez le joyau dans le lotus et vous avez une circulation d'énergie qui va faire qu'il va d'abord fournir de l'essence pour que le pétale de l'intelligence s'épanouisse. Et comme c'est une triple triplicité, vous aurez le pétale d'intelligence-intelligence, le pétale d'intelligence-amour, le pétale d'intelligence-volonté. Et de ce fait, vous allez avoir un cercle extérieur qui va concerner l'aspect mère, un cercle médian qui va concerner l'aspect fils, et un cercle encore intérieur qui concerne l'aspect père. Et autour du joyau, vous avez les trois pétales centraux qui, eux, sont pure intelligence, pur amour et pure volonté. Alors, au fur et à mesure que l'être transmute ses vies mineures, l'essence de ces vies mineures remonte sous forme d'énergie qui vient alimenter la contrepartie supérieure. Et c'est ainsi, si vous voulez, que le lotus, en fait, se déploie.
C'est en remontant que ça se déploie.
Oui, parce que le fils unit les énergies de la mère avec les énergies du père.
Il n'y a qu'une remontée, c'est pas plusieurs descentes, c'est au fur et à mesure de la remontée.
Non, c'est une circulation permanente qui se fait soit en continu, mais au début, par saccade. La représentation que vous avez là est la représentation d'un être qui va arriver à la quatrième initiation. C'est-à-dire tous ses pétales sont épanouis. Il est réellement le fils qui unit le père et la mère. Donc l'essence alimente le feu. Et vous avez la lumière de l'âme. Au fur et à mesure, les centres de chaque corps montent en dimension. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au début, ils sont en trois dimensions, ils vont passer en quatre dimensions et ils vont monter en cinq dimensions. C'est-à-dire que les centres sont des roues qui tournent comme ça et en même temps comme ça et en même temps comme ça. Donc en fait, ça, c'est vertigineux. Et plus c'est vertigineux, plus le processus de rayonnement de l'énergie est important. Ce qu'il faut savoir, souvenez-vous, je vous l'ai évoqué, la mère, son énergie circule par les atomes permanents. Le fils, la conscience, fonctionne par les pétales des centres. Et l'énergie du père, c'est le joyau des centres. Donc chaque ligne d'énergie a son propre circuit. Et le fait que ça s'associe modifie le rayonnement et la circulation de l'énergie à l'intérieur des centres. Quand le fils est devenu l'époux de la mère, il n'a plus à être intermédiaire. Donc vous avez destruction du corps causal.
Donc après, il n'y a plus trois mois, il n'y en a plus qu'un.
Ouais. Dans le processus, vous avez trois aspects. L'aspect père, l'aspect fils et l'aspect mère. Cela donne un triangle. Triangle du bas, la personnalité. Triangle du haut, la trinité. Alors le bas, c'est corps physique, corps émotionnel, corps mental. Le triangle du haut, c'est volonté divine, amour divin, intelligence divine. En fait, les trois aspects supérieurs doivent se refléter dans les trois aspects de la personnalité. À partir de là, vous avez la science des triangles. Et en fait, il s'agit d'une triple triplicité. C'est-à-dire que chaque aspect a les trois autres. Simplement, son aspect est dominant. Vous avez la vie, au centre, vous avez l'aspect père, l'aspect fils, l'aspect mère. mais chaque aspect a les deux autres. Alors il s'agit de résoudre cet ensemble. Ça veut dire que le but du fils, c'est de devenir l'époux de la mère. Il devient l'époux de la mère en réduisant la ligne du bas en un point. Et puis en fait, en d'autres termes, le triangle doit devenir la ligne, il doit devenir le point. Et là, je vous ai fait une photo instantanée. Mais c'est jamais fixe, ça. C'est dans l'espace. Et ça tourne toujours. Les champs d'énergie, lâcher l'aspect forme. Partez en qualité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pratiquer en toute chose, avec intelligence et juste relation. Amour. Quand vous aurez ça en instinct, vous allez agir en volonté de bien de l'ensemble. Ce qui veut dire que un sage, c'est celui qui, naturellement, par instinct naturel, donc en comportement permanent, il est intelligent, il pratique de juste relation, il aide les autres à devenir meilleurs, et il assume la volonté du Père. À partir de là, tout ça devient une unité. Dans un premier temps, il va fusionner l'énergie de la mère, l'énergie du fils. L'énergie de la mère est intelligence, l'énergie du fils est amour. Qu'est-ce que ça donne? La sagesse. La sagesse, c'est toute chose faite avec intelligence et juste relation. À ce moment-là, c'est la personnalité à fusionner avec l'âme. En d'autres termes, vous n'êtes plus Cain et Abel séparés, vous êtes redevenus les deux. Simplement, vous êtes présents sur Terre. Donc vous êtes dans l'humanité. Mais vous êtes aussi dans la hiérarchie des âmes. Puisque vous y avez conscience, vous utilisez l'énergie des âmes, c'est-à-dire l'amour. Donc vous êtes devenu non plus un triangle, mais une ligne. Donc ça veut dire que vous êtes devenu l'époux de la mère. Et maintenant, il faut rejoindre le père. Donc vous êtes le fils, époux de la mère, et maintenant vous devez devenir le père. Donc vous devez redevenir le point. Et le point, c'est la vie, au centre de tout. Quand vous êtes à ce stade-là, l'autre est une partie de moi-même, et vice-versa. Allez chercher une goutte d'absolu dans l'absolu. Là, l'être se dit, je suis cela, et maintenant j'ai à devenir ce que je suis. Ici, vous dites, je suis devenu ce que je suis. Mais vous ne pouvez pas séparer une goutte d'absolu. C'est notre mental concret qui... Si je touche votre bout de pied, je vous touche. Vous ne séparez pas. Vous savez, les hindous ont une très belle démarche de salutation, ils s'inclinent. Je m'incline devant la vie. C'est une très belle démarche. Mais c'est ça, le problème, c'est de comprendre que l'unité de vie dans tous les univers génère la diversité. Il ne peut pas y avoir uniformité, alors. Hein, vous imaginez si on est tous pareils. Alors ça, c'est la phase lune-soleil. C'est ce que les Templiers portaient. Vous avez toujours le soleil d'un côté, la lune de l'autre. Moi, la vie, je suis esprit matière.
Assimiler la lune à la matière.
Oui, c'est toutes les lumières. Mais de toute façon, tout être est une lune d'une vie supérieure. Regardez, dans la lune du Père, vous avez plein de vies qui, elles-mêmes, ont leur petite lune. C'est l'aspect Père-Mère. On est toujours en manifestation, l'atome pour des vies mineures, l'électron pour une vie plus grande. Donc, lune-soleil. Mais vous allez au-delà quand vous réduisez la ligne au point. Et vous la réduisez parce que vous atteignez à cette conscience, l'autre est une partie de moi-même. Donc à partir de cela, ici vous avez la maison du Père, ici vous avez l'humanité, et ici vous avez la hiérarchie des âmes. Donc si je traduis autrement, ici vous avez le quatrième règne, ici vous avez le sixième et le septième règne, ici vous avez le cinquième et le sixième. Eh bien, la finalité, c'est l'être qui dit « Je suis dans l'humanité, j'appartiens à la hiérarchie des âmes et je sais la maison. » Il est en train de résoudre tout ça pour devenir le point. À partir de là, sur ce plan premier, l'être étant devenu cristal diamant, les grandes vies des sept univers peuvent dire simplement « Tu es moi, je suis toi et tu me sers de canal, ce qui assume mon dessein, moi, Dieu, je suis Patrick. » En d'autres termes, dans la septième race, les hommes marcheront parmi les reines de la nature en tant qu'êtres divins, messagers des dieux. Cette belle histoire s'était interrompue il y a 12 000 ans, elle a été relancée il y a 2 000 ans, et aujourd'hui, le patron attend de revenir.
La nature aussi est divine. Dans ce cas-là, il y a l'unité. C'est pas nous qui nous promenons dans la nature. On est tous.
La nature resplendira la beauté du Fils devenu Père. Vous avez actuellement un règne qui a rejoint sa racine de vie, c'est le règne végétal. C'est pour ça que vous voyez les splendeurs des fleurs, des arbres, tout ça. Mais les autres règnes ne sont pas encore reliés à leur racine de vie.
Le minéral, non ?
En tant qu'élément, vous avez des éléments au sein, donc les pierres fines, les pierres précieuses, qui, elles, sont en train de devenir des gouttes. D'accord ? Chaque règne a passé par l'aspect mère, l'aspect fils et l'aspect père. L'aspect mère, c'est l'inertie, donc tu as du mal à avancer. C'est les 700, pour parler des êtres humains, c'est les 700 vies. L'aspect fils, c'est de partir en évolution. C'est l'aspect Raja, et l'aspect père, c'est le rythme. Et lui, c'est ce qui, justement, équilibre l'ensemble. C'est les gunas, les trigunas. Donc, les processus, comment se manifestent. Donc, un atome, il tourne sur lui-même, c'est l'aspect mère. Hein, il tourne en spirale parce qu'il est entraîné, c'est l'aspect fils, et il va de l'avant, c'est l'aspect père. Donc, dans chaque reine, vous avez les trois stades. Dans les robes de la mère, la poussée du fils et l'allée de l'avant du père.
Il en est où le minéral là ?
Le minéral attend que l'homme l'irradie.
L'homme a une action sur ce règne là.
Ça va même plus loin. Lorsque la maison du père, donc les êtres, d'accord, qui sont en phase, étant entendu que la finalité, le retour de guide, c'est le retour de la maison du père sur la terre. Non plus sur le plan éthérique, mais sur le plan dense. Lorsque le centre de la tête planétaire, la maison du Père, est au contact du minéral, vous avez le processus de sacralisation de la planète. Pour les pères de nos pères, la Terre est sacrée. Ça veut dire que celui qui donne la vie à la planète a maintenant une telle impression sur sa manifestation, il est arrivé à un tel stade que cela sera, même si ses fils, comme on dit, se prennent plein d'écuries. Alors, ce n'est pas étonnant de ce qui va arriver. Si les hommes ne veulent pas assumer, ils vont l'apprendre à leur dépens. Les secousses que vous voyez physiques et tout ça ne sont jamais que l'énergie qui est transmise au centre d'énergie qu'on appelle l'humanité et que l'humanité n'assume pas. Donc s'il ne transmute pas cette énergie pour la manifestation, c'est-à-dire les règnes, tout ce qui n'est pas transmué devient destructeur. Donc les éléments seront déchaînés. Cette énergie ne concerne pas seulement le plan physique, elle concerne le plan mental et le plan émotionnel. Tout ce processus de réalisation repose sur les êtres qui assument la toile de lumière sur la Terre. Donc à chaque jour, à chaque instant, nous avons à rayonner. Si les êtres qui appréhendent en conscience tous ces domaines-là n'assument pas, cela dit, c'est la cinquième fois que les êtres concernés n'assument pas.
Bon, est-ce que c'est irréversible ?
Non, ne vous inquiétez pas. Il y a sur la Terre aujourd'hui une toile de lumière composée des êtres du cinquième règne qui, en conscience, assument. D'où l'intérêt de permettre à ces êtres, en connaissance de cause, de mieux saisir la réalité des choses, d'étudier consciemment les choses. Le problème maintenant, c'est qu'il ne faut pas rester au stade d'étudiant.
Les êtres ont une responsabilité sur l'évolution du règne.
Sur les règnes de la nature.
Et alors, mais comment ils ont fait pour réussir pour le règne végétal, puisque lui, il a rejoint sa racine de vie. Qu'est-ce que les êtres ont fait?
C'est plus lié aux caractéristiques de notre planète. C'est lié à l'aspect mère de notre planète. Chaque planète est en concordance, plus particulièrement au sein du système solaire, avec un règne. Donc le règne végétal a déjà assumé son privilège. Vous vous rendez compte, le végétal, il est en train de refléter les bienfaits du Père avec tous ses bienfaits voilés par les pollutions humaines. Ne croyez pas qu'il est handicapé au passage. Il faut savoir que un désert, c'est un lieu où l'homme a désertifié par sa méchanceté. La Terre était un paradis. Il faut savoir que c'est la race noire qui a été en son temps son cycle apogée, qui était cruel et qui a désertifié le Sahara, qui était une terre aussi verdoyante que l'Europe. mais ça aide la méchanceté à désertifier, à empêcher les jeunes vies en manifestation de pouvoir continuer. D'où le karma qu'a connu la race noire. Peut-être que la race blanche s'est également préparé un petit karma. Quel serait le karma du cinquième règne? Ben, c'est ceux à qui le père a confié la tâche.
Ouais, ça va, tranquille, ouais, non, c'est une belle histoire, et puis c'est présenté à peu près bien. Donc,
voilà. Il faut sortir des robes de la mer. Comme l'évoque Léa, il faut sortir de l'inertie. Ouais. Il ne s'agit pas de vous dire, oh là là, je vais avoir des grandes choses à... Non, il faut bien comprendre que là où nous sommes sous haute surveillance, et que vous aurez dans votre vie au quotidien, eh bien, des petites opportunités. Ce sera une rencontre, c'est ça. Et puis, ben, si vous êtes dans cet état d'esprit, la première des choses, c'est de dire, je mets le pilote automatique. Je laisse mon être prendre les commandes. Donc, puis vous allez vous apercevoir que c'est l'autre qui demande, et puis voilà, c'est pas compliqué. Dans l'inertie des robes de la mer, les êtres s'attendent à des grandes choses au départ, alors qu'ils sont testés sur des petites choses. Autour de nous, il y a plein d'êtres qui attendent. Ils attendent autre chose, ils attendent de l'eau de vie. Ils n'attendent pas les lettres mortes des guides qui n'en sont pas. Et bien évidemment, dans ce dossier-là, ben vous avez, si vous voulez, à un moment donné, si vous vous êtes situé, vous savez aussi qu'à partir de là, vous avez ce qu'on appelle le dharma, c'est-à-dire la tâche que vous avez à assumer pour être un véritable serviteur. Ce que vous transmettez est de plus grande importance que ce que vous recevez. Vous avez reçu, vous avez étudié, c'est lire, c'est assumer. C'est servir le Père. Gautama Bouddha vous dit, n'accepte que ce qui te convient. Fût-ce le plus grand des guides qui te l'a dit. Mais si ça te convient, assume.
Vous auriez des questions?
Non, j'aurais une question. Pas
exactement. Ça n'a pas d'importance.
Que les Four Circles, c'est des aimables plaisantes.
C'est des entités qui s'amusent. Vous avez des entités coquines, vous avez des entités perturbatrices, et elles cherchent à générer des manifestations pour entraîner l'illusion.
Il y a plusieurs sortes de qualités différentes. Il y en a qui sont effectivement interférées, si je veux dire, par ces entités. Il y en a d'autres qui ont quand même de très très beaux messages, d'autorités sacrées, etc. Alors pourquoi sont-elles perturbatrices?
Je n'ai pas dit qu'elles étaient perturbatrices, j'ai dit qu'elles étaient coquines. Elles s'amusent. Alors, d'abord, des entités d'outre-espace, c'est terminé. Elles ne peuvent plus aujourd'hui venir facilement sur la Terre. Non, parce qu'il faut savoir que dans la marche de la lumière face à l'ennemi et donc aux ténèbres, aujourd'hui, ça va vous paraître surprenant, le rapport de force entre la lumière et les ténèbres est de plus de 90% en faveur de la lumière. Simplement, il faut le temps que ça impressionne la bon. Alors, bien sûr, ce que je vous dis là, vous n'allez pas le trouver en l'état d'embellé. Donc, je préfère le signaler. Mais il faut savoir que, au-delà de ce qui est devenu semi-ésotérique, qui donc a été mis à disposition des hommes, c'est-à-dire les livres, vous comprenez bien qu'il reste une partie purement ésotérique. Et qu'à un moment donné, ben, voilà quoi. Donc, il y a une progression. Alors, je suis obligé de signaler la chose parce que vous n'allez pas le retrouver dans Bélé, hein, Blavatsky. Mais aujourd'hui, bah, les choses ont continué. Hein. Il faut bien savoir que Maitreya conduit son retour. Et il faut bien savoir qu'il est accompagné de guides. Je vous ai déjà dit, tant que le maître des guides ne sera pas apparu, aucun guide ne vous dira qu'il est un guide. Parce que le retour de Maitreya, c'est de dire, tout est accompli, nous sommes revenus.
Est-ce que justement ces propres circles ou ces agro-livres n'est pas là pour redonner de l'énergie à la Terre et la resacraliser quelque part? Parce que ça apparaît souvent dans des coins, il y a beaucoup de guerres, beaucoup de haine, et aussi quand même, malgré tout, des tumulus ou des pierres levées, des choses comme ça.
Le seul élément que je vous ai donné est le seul qui est en notre possession. Vous n'avez pas, comme on dit, arrangé le coup. Je vous ai donné... Non, mais je veux dire par là que... Oui, mais et bon, comme on dit, on n'a pas tous les éléments, deux, mais on va dire que d'une façon normale, voilà, qui est... contrôle pas tout, hein.
Contrôle pas tout.
Hein? Ah, mais j'entends bien. Mais j'entends bien, absolument. Non, mais j'en ai vu, hein, ne vous inquiétez pas, j'ai vu les photos.
Pourquoi tu dis qu'il y a une possibilité de communication entre d'autres planètes et nous?
Quand l'humanité a chuté dans les ténèbres, elle a permis à 6 entités noires cosmiques de venir enserrer la Terre. Et pendant des milliers d'années, ces entités noires, donc des frères noirs cosmiques, hein, donc qui dans leur domaine poursuivent leur évolution, ont emprisonné la Terre et par conséquent, plus les hommes font du négatif et plus des êtres lourds peuvent venir. Aujourd'hui, ces entités noires cosmiques ont été embarquées.
Embarquées ça ?
Dans un coin de l'univers où elles n'ont comme autre choix que ou de se soumettre à leur épuration karmique ou d'être annihilées en unité de conscience.
Mais quand tu disais qu'on ne pouvait pas s'approcher de la Terre, tu parlais de ce type d'entité. Tu parlais
non, ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux, autour de la Terre, tu as un rayonnement de lumière assemblé par tous les êtres du cinquième règne et les possibilités offertes au sixième et au septième règne de créer un bouclier énergétique protecteur. Donc le négatif ne peut plus percuter la Terre.
Ah, oui. Les habitants de Vénus, etc., il n'y a rien qui s'oppose à ça.
Les habitants de Vénus sont de beaux êtres.
Oui, il n'y a rien qui s'oppose à leur vie.
Non, parce que la fréquence ne les dérange pas. Mais un être noir à supposer qu'il essaie de venir, il ne percera pas ce champ magnétique.
D'accord. Donc, je continue, on peut recevoir des messages de Vénusiens dans les agroglyphes.
Absolument. N'accepte que ce qui te convient.
Voilà.
Je n'ai pas la prétention d'être infaillible. Ah, il y a plein de domaines, si tu veux, ou j'en sais moins que vous. Hein. Et l'important, c'est l'essentiel, si tu veux. Ce ne sont pas des nous-mêmes, ce sont des phénomènes. Vous avez d'autres... Autrement, bien, je vous invite à étudier le dossier, parce qu'après, bon, bah, ça va être de la lecture. Hein. Simplement noter que nos corps physiques... Notre corps éthérique est sur le troisième ou le septième rayon, notre corps émotionnel est sur 2, 4, 6, et notre corps mental est sur le 1, le 4 et le 5.
Qu'est-ce que c'est le souvent cosmique liquide ?
Astral. Si tu veux, tu as des désignations concernant l'évolution humaine, et puis le tout est repris dans sa dimension cosmique. C'est-à-dire, nos 7 sous-plans, en fait, ne sont que le corps dense et le corps éthérique cosmique. Tu vois bien, c'est-à-dire qu'en fait, il nous faut changer d'échelle. Si on voulait faire une comparaison au niveau physique, eh bien, quand nous sommes sur le plan terrestre, nous sommes dans la Terre cosmique. C'est comme si nous étions, si tu veux, des vers de terre.
Des échelles multiples. Il y a une partie qui sert pour l'autre, etc. Et au plan terrestre, tu montes, il y a toujours une partie.
Et si tu manquais d'échelle, toutes les informations, nous ne les trouverions pas dans un display, mais ça, c'est bien. Mais alors, comment... Peut-on avoir une petite idée de comment ça t'est donné, comment tu as reçu, quoi.
Alors, je vais faire bref. En 73, c'était pour moi à la fois toujours une trajectoire de personnalité et puis il y avait l'émergence quand même d'impression. Quand j'étais petit, je disais à ma mamie, j'avais 5-6 ans, mamie, je suis au plafond, je vois mon corps. Tu as fait un cauchemar. J'ai fait mon cursus jusqu'en 80, et puis en 77, j'ai commencé déjà à me dire il y a autre chose, à appréhender tout ça. Et j'ai tout vendu mes affaires, et puis en 80, donc je me suis dit, un financier de plus, un financier de moins, ça ne se verra pas. Puis, aller dans tout ce domaine dont j'avais certaines préciences, voilà. Et à partir de là, de 77 à 84, j'ai mené parallèlement cette recherche. Et puis, cette recherche a été soutenue à la fois par des symboles, c'est-à-dire j'étais collectionneur, donc des symboles sont venus, petit à petit, en menant, comme on dit, à saisir une certaine lecture cachée de tout ça. Et puis, sont venus à moi des livres, et notamment Bélé de Blavatsky. En 77, j'ai commencé à pénétrer Bélé, et puis j'ai fait mes propres dossiers.
J'ai eu des tests, mais ce serait trop long, mais c'est un côté merveilleux, mais je vous le raconterai un autre jour. En 84 a commencé un processus de rencontre. Si bien qu'on s'est retrouvé à être un groupe de 7, dont Christine, et pour m'entendre dire, Bernard, vous êtes arrivé là où vous deviez arriver. Donc on s'est enclenché en fait une liaison directe. Et j'ai eu à préparer plus en avant tous les dossiers que j'avais extraits, parce que je m'étais aperçu qu'en fait, il y avait un saucissonnage remarquable dans les livres de Bellet, c'est-à-dire qu'il fallait se balader. Alors ce qui s'est avéré, si vous voulez, c'est que pendant 3 ans, j'ai poursuivi dans cette finalité de communiquer aux autres. Alors j'avais tous mes livres qui étaient là, et vous me croirez si vous voulez. Je travaillais un sujet, ma main allait chercher un livre, à la limite sans voir le livre, la page s'ouvrait à la page suite à donner. Il suffit de brancher le pilote automatique. Étant entendu que parmi les contacts qui sont devenus réguliers, bien Bernard, beaucoup d'êtres vous attendent. Alors, il y a ici une personne qui a fait partie, Madeleine a fait partie du premier groupe dans les années 80. Ouais. Ouais, mais enfin, bon, ça démarrait un peu avant. Voilà, donc il y a eu un premier groupe. Et la finalité, c'était de comprendre qu'en fait, sur la Terre, se réalisait une toile de lumière. Voilà, et que des êtres seraient guidés. Puis après, l'histoire merveilleuse a pris d'autres dimensions. Mais j'ai eu à vérifier, surtout au départ, tout ce que j'appréhendais. Et je l'ai vérifié par l'expérience. Je sais ce que c'est que le pouvoir de la pensée. Ce qui veut dire que, en fait, notre rencontre s'inscrit dans un processus qui se déroule et pour lequel vous vous êtes vous-même, de votre côté, préparé, vous avez fait votre propre cheminement. Le problème, c'est de regarder simplement les choses. En fait, le retour des guides dont je vous ai évoqué le processus par Maitreya, eh bien, le retour de guide est en phase de réalisation. Je vous ai dit, il y a 2000 ans, beaucoup d'entre vous étaient Palestine, aussi curieux que ça puisse vous paraître. Ça s'est poursuivi au 5e siècle, au temps d'Arthur, qui n'est pas une épopée, mais une réalité. Et puis, ça a perduré avec les Templiers, dont le secret était le retour de Maitreya. Je vous donne les repères. Le dernier en date, c'était au 19e, mais là, ça a avorté dans l'œuf, au moment de Blavatsky. Voilà. Et puis, rebelote, là. 5e fois, étant entendu que c'eût été la dernière si il n'y avait pas eu les réponses. La date fixée à aujourd'hui pour le retour est de 2018. Voilà. Être prêt ne suffit pas. Être prêt, ça veut dire qu'on assume.
Et 2012 ?
Alors, 2012, effectivement, est assez connu dans le sens, ça peut être la cata. Tu étais la cata si il n'y avait pas eu le rendez-vous. Assumé. Alors, nous ne sommes plus à la cata au sens où le ciel nous tombe sur la tête. Nous sommes à la grande fessée salvatrice de l'humanité. Qui veut dire que la première des fessées, c'est le veau d'or. Nous avions l'information il y a 5-6 ans, donc nous savions que le nettoyage allait commencer par la chute de la bourse et du monde bancaire. Aucun de ceux qui étaient au fait des choses ne pouvait imaginer l'ampleur du dégât. Parce que là, c'est pas fini, hein, les amis. On n'est pas encore à la moitié du pont. Hein. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore vu le fond, hein, et ils sont pas prêts de le voir.
Ils continuent.
S'il n'y a pas de prise de conscience, ça continue.
Tant qu'on peut reproduire à l'identique...
C'est cassé. Hein. Nous sommes dans l'ordre cosmique, donc c'est cassé.
Et les autres fessées qui nous attendent ?
Nettoyage physique. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez ce qui se passe en réalité. Je vais d'abord le dire pour l'homme, et vous allez voir ce que fait l'homme céleste. Nous sommes en réalisation. Ça veut dire que nous veillons à éliminer de notre manifestation les vies qui ne sont plus représentatives de notre état intérieur. En d'autres termes, nous transmuons ces vies mineures lourdes qui ne sont plus de notre stade qualitatif. Le Père fait pareil. Il est arrivé à un tel stade d'évolution que tous les êtres qui aujourd'hui nourrissent le négatif de façon lourde sont has-been, ce qui veut dire qu'ils vont être retirés de la manifestation. Et donc les événements
feront que ces êtres, par leur être intérieur, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est leur Abel qui dit pas qualifié pour poursuivre. On retire. Désolé. Ça veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir poursuivre leur évolution sur cette planète. Ils vont être mis en attente qu'une planète, dans son évolution, leur présente leur niveau de reprise. Donc des êtres vont être retirés par phénomène naturel.
Par exemple, des raz-de-marée, tremblements de terre, des accidents d'avion.
De tout. N'oubliez pas, notre être est notre agent karmique. Donc leur Abel dit Cain ne peut pas poursuivre, donc on se retire.
Ce que je ne pense jamais dans ces événements de masse, de groupe, c'est qu'il n'y a jamais de personnes qui vont disparaître. Il y en a peut-être la moitié qui sont des gens qui correspondent aux critères que tu viens d'évoquer, et puis l'autre moitié qui se trouvait simplement là.
Mais ça faisait partie de l'autre chose.
Tu ne sais pas que quand il y a un accident d'avion, curieusement, il y a des êtres qui vont dire, je ne sais pas pourquoi, j'ai toutes les difficultés. Ce n'est pas pur. Si tu mets au niveau de l'être, donc l'être concerné, car t'as vu ton arbre, on ne peut pas, on peut pas continuer. On n'est plus à la hauteur.
Mais là, ce que tu me dis là, moi, je le pressens depuis je ne sais pas combien de temps. Et d'une façon, je dirais, complètement intuitive, irrationnelle, enfin tout ce qu'on veut.
Non, tu ramènes ça sous le bras d'en haut, en me disant, je le pressens. Voilà. Mais ce que je vous ai dit, comprenez-le, en tant qu'aide, nous travaillons. Mais là, on n'est plus à bord de notre chantier, on est nous-mêmes en tant qu'être. Et c'est pour ça qu'il faut respecter des plages normales, si vous voulez, de sommeil. Parce que bah, vous quittez vos mondes propres, et puis en tant qu'être, vous remontez là-haut, et puis vous travaillez.
Et juste dans le sommeil profond.
Oui, qui, en fait, si tu veux, se termine entre 4h et 4h30. C'est-à-dire que quand tu es vraiment parti, jusque 4h, 4h30, tu travailles. Sur les hauts plans, hein. C'est une compagnie d'un beau débat. Chaque plan, si vous voulez, a ses caractéristiques de couleurs, et les hauts plans, c'est souvent des couleurs fluo.
Dans tous les tons ou
tous les tons. Et des tons que vous ne verrez pas sur trois. Le rouge sur terre, mais pas le rouge d'en haut. Il n'a rien à voir. Notre couleur, elle émet, mais vous ne voyez pas la vie à l'intérieur. Tandis que les couleurs des plans subtils, c'est de la vie. C'est la vie qui a une apparence, à la limite, on peut même pas dire un voile, mais c'est de la vie, c'est de l'énergie. Tout est vie. C'est pas inerte, tout est vie. Non seulement c'est des longueurs d'onde, mais en plus c'est des voiles. Qu'est-ce qu'une couleur ? C'est la réactivité d'une matière à un rayon qui la traverse. Mais ce n'est pas le cas sur les hauts plans. En fait, sur le plan subtil et là-haut, si vous voulez, les couleurs sont des qualités qui transpirent. Dans votre aura, quand vous usez de ces énergies, ça devient de la lumière intense.
Elle change de couleur ?
Oui, absolument. L'énergie que vous irradiez se colore, mais de couleur de lumière.
Quand tu médites, elle change de couleur.
Bien sûr. Dans l'aura, c'est pareil. L'énergie qu'on appréhende, qu'on intègre, on la rayonne.